Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et dans le grand débat du Club des Idées ce soir à 19h21, on s'intéresse au séparatisme. Le séparatisme en question, Emmanuel Macron est attendu vendredi sur le sujet. Un discours maintes fois reporté qu'il devrait cette fois prononcer au Mureau dans les Yvelines à côté de Paris. Alors de quoi parle-t-on exactement? Séparatisme, communautarisme, entrisme d'un islam politique? Le sujet est devenu d'actualité sur le devant de la scène, même depuis quelques mois. Alors quelle réalité derrière cette idée de séparatisme? Des territoires sont-ils abandonnés aux mains des islamismes radicaux qui prennent le contrôle des esprits? Les quartiers populaires sont-ils, comme l'affirme le ministre Darmanin, gangrénés par les intégristes? On en parle ce soir avec nos invités. Bernard Rougier, bonsoir, vous êtes professeur à la Sorbonne, Nouvelle, et auteur de Les territoires conquis par l'islamisme, c'est aux éditions PUF, sorti cette année, en 2020.
Absolument.
Abdelali Mamoun, bonsoir. Vous êtes théologien, décidément ce soir j'ai du mal, et imam, auteur de L'islam contre le radicalisme, manuel de contre-offensive. C'est aux éditions du CERF, sorti en 2017.
Tout à fait.
Bonsoir Francis Chouat, vous êtes député apparenté En Marche de l'Essonne, ancien maire d'Evry, et vous faites partie de la mission sur la lutte contre le communautarisme, et vous êtes membre du groupement d'action politique dédié à la laïcité. J'ai rien oublié ?
Absolument, bonsoir à tous.
Bonsoir. D'abord, je voudrais factuellement qu'on tente ensemble de définir l'ampleur de ce phénomène dont on parle. Combien de quartiers seraient aujourd'hui concernés par des situations de communautarisme qui mettent, disent les politiques, en péril les lois de la République? En janvier dernier, par exemple, la DGSI, les services secrets intérieurs, parlaient de 150 quartiers tenus par les islamistes. Est-ce que c'est à peu près la jauge dans laquelle nous sommes aujourd'hui, Bernard Rougier?
Je vais vous répondre très clairement, je ne sais pas.
Vous ne savez
mais
pas.
Mais ce que j'ai observé, c'est que chaque fois que nous faisions un terrain avec mon équipe, nous trouvions ce phénomène, avec des formes plus ou moins achevées, plus ou moins globales, plus ou moins complètes, si vous voulez. Dans des formes totalement complètes, on avait un réseau religieux qui avait ses entrées dans la mairie, qui pouvait contrôler l'accès à l'emploi, l'accès au logement social, une partie de la socialisation de la jeunesse.
Oui.
La manière dont je vois les choses, si vous voulez, c'est qu'on a une population d'origine maghrébine et subsaharienne, largement naturalisée français, et qu'un certain nombre de prédicateurs et de réseaux de prédication veulent transformer cette population, créer un collectif au nom de l'islam pour peser dans les rapports de force à l'intérieur de la République.
On estime en France entre 30 000 et 50 000 salafistes, dont 12 000 particulièrement virulents, sur près de 6 millions de musulmans. Alors, ce qui est incroyable et très inquiétant d'une certaine manière, vous allez me répondre Abdelali Mamoun, c'est que c'est un chiffre qui est en forte progression. En 2004, ils étaient évalués, ces mêmes salafistes, à 5 000, c'est-à-dire 10 fois moins. Est-ce que c'est également ce que vous observez?
Non, pas du tout. Les chiffres du salafisme étaient déjà beaucoup plus importants que ce que vous dites au début du XXe siècle, du XXIe siècle.
Oui.
Là, vos chiffres que vous évoquez me semblent pas du tout réalistes quand on parle de 150 quartiers, ou même beaucoup plus que ça, je pense. Et je pense aussi que beaucoup d'entre eux ne vivent pas dans ces quartiers-là.
Attendez, quand vous dites pas réaliste, ça veut dire que selon vous,
c'est beaucoup plus. Oui, bien sûr.
C'est beaucoup plus.
Oui, tout à fait. Le nombre est beaucoup plus important.
Et pour reprendre les chiffres, même s'ils sont, discutables, mais 30 à 50 000 salafistes aujourd'hui en France, alors il n'y a pas que le mouvement salafiste, hein, qui est un mouvement rigoriste, il y a aussi les frères musulmans, enfin voilà, il y a tout un tas de mouvements. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a une augmentation assez notable depuis quelques années de ce mouvement?
Ce mouvement s'est émancipé dans les années 90. Il faut être honnête, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à entendre parler de cette mouvance, cette doctrine qui, bien entendu, porte le vrai nom de ce qu'on appelle le wahhabisme, c'est-à-dire qui est issu de l'Arabie Saoudite et de son cheikh, son penseur, son mentor, qui était Mohammed ibn Abdel Wahhab. Celui qui a donc intronisé la famille Saoud au pouvoir en Arabie Saoudite, en légitimant bien sûr le désaveu de l'Empire Ottoman, qui était lui aussi un empire musulman. Donc manœuvre, on va dire, politico-religieuse, qui a été donc entreprise en Arabie pour justement légitimer la prise du pouvoir par la famille des Saoud.
Francis Chouat, sur le constat aussi, vous partagez tout ce qui a été dit, il y a une augmentation du phénomène de l'entrisme, on appelle ça, je ne sais pas d'ailleurs, est-ce qu'il faut dire communautarisme, parce que le séparatisme, c'est un mot qui a été un peu créé, inventé par Emmanuel Macron là récemment, mais on parle de la même chose, hein, communautarisme, entrisme de l'islam politique, séparatisme.
Je partage les constats qui viennent d'être faits, difficile aussi de les quantifié, et puis il faut faire attention à quelque chose. Il n'y a pas, heureusement, encore en France, de quartiers qui sont, ou de territoires qui sont totalement sous la coupe réglée d'organisations politiques sur la base d'un islamisme politique radical salafiste. Ce qui est incontestable, c'est qu'il y a un double mouvement. Il y a un mouvement de recul de la République, et c'est pour ça que je pense qu'il faut y faire attention. Si on a quelques minutes, il faudrait pouvoir rentrer dans ce sujet. Et puis, il y a, de manière politique explicite ou de manière non explicite, souvent en utilisant d'ailleurs les grandes causes humanitaires, je pense à une association sur la circonscription d'Évry-Courcouronnes, qui est cette association Baraka City, dont le président se lance dans des véritables campagnes de harcèlement et de menaces de militantes républicaines anti-islamistes. Donc, alors, pour répondre à votre question, je préfère dire les choses franchement, c'est plutôt mon habitude. Il y a un rapport de force aujourd'hui où certains veulent imposer le communautarisme.
Oui, le communautarisme, au détriment des lois de la République.
Comme substitution au mode républicain qui a construit la France.
Alors on parlera, parce que c'est un sujet très important pour bien comprendre ce phénomène, de la méthodologie dans cette conquête de territoire de la part de cet islam politique. Dans quelques secondes, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, 19h31, on est toujours avec nos invités dans le grand débat du Club des Idées pour parler du séparatisme. Le séparatisme en question à 48 heures maintenant du grand débat et du grand discours qui sera prononcé au Mureau dans les Yvelines par le président Emmanuel Macron. Ce sera donc vendredi. Alors, je voudrais qu'on revienne sur la méthode et la manière dont ces islamistes radicaux conquièrent les territoires. C'est l'objet de votre livre, hein, Bernard Rougier. Il y a des écosystèmes islamistes, dites-vous, qui créent de véritables territoires de l'islam et qui mettent en résonance mosquées, librairies islamiques, commerces halal, salles de sport. C'est-à-dire qu'on arrive pas à pas et pied à pied, on construit une communauté.
C'est ça, c'est l'écosystème et c'est une forme de fraternité islamique ou islamiste qui fonctionne dans différents endroits. Et tant que la République ne pourra pas, elle, apporter une fraternité républicaine, on ne voit pas très bien comment, il y a des sociabilités qui croisent, si vous voulez, l'affectif et le cognitif.
Oui.
On va prier avant de commencer le sport, on va interrompre le match de foot par une des prières quotidiennes. On est dans un système, si vous voulez, de vie. On est dans une forme de vie qui fait que c'est extrêmement difficile à briser, puisque c'est perçu comme étant l'expression de l'islam et l'expression d'une solidarité. Dans une société où le chômage est celui que nous connaissons, où la société est désindustrialisée, où il n'y a plus d'instruments intégrateurs, on a ces réseaux associatifs qui prennent en charge une partie de la jeunesse. Et ce n'est pas du tout un hasard si c'est parmi cette jeunesse qu'on trouve souvent les attitudes les plus radicales.
Et c'est la même chose aussi à l'école. Hein. Je pense bien sûr au rapport de Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur de l'éducation nationale. Il a été l'un des premiers à alerter dès 1996. C'était à l'époque un peu tabou de parler de ça. Et puis il connaît aujourd'hui un certain succès parce qu'il avait été l'un des premiers à alerter. Et alors, ce qu'il dit, c'est que ce sont des élèves qui protestent contre la galette des rois, contre l'arbre de Noël, des jeunes filles qui refusent la piscine, des auteurs comme Voltaire ou comme Rousseau qui sont boycottés dans les salles de classe. Abdelali Mamoun, vous êtes théologien et imam. Ce sont des comportements que vous observez, vous aussi ?
Pas trop, effectivement. La grande majorité des musulmans aspirent effectivement à s'intégrer pleinement dans le paysage français sans à redire à quoi que ce soit de tout ce que vous évoquez. Effectivement, il existe quelques frange extrêmement minoritaire qui fait du bruit. Hein. On dit que c'est l'arbre qui tombe qui fait du bruit, hein, alors que le reste des arbres continue à pousser
dans
le silence.
Mais vous, quand vous êtes confronté à des croyants qui ont ce type de discours, qu'est-ce que vous leur dites ?
Écoutez,
comment est-ce qu'on peut désembrigader des jeunes qui se lancent dans un islam radical ou qui sont séduits par un islam radical, oui.
Il y a tellement de points et de sujets à développer et à, on va dire, à décortiquer, voire même à démonter, qu'on ne peut pas le faire en une seule conversation, une seule discussion avec une personne qui est contaminée, endoctrinée par ce genre d'idéologie. On va d'abord parler de la laïcité, on va parler, par exemple, des valeurs républicaines, on va parler de la notion de la démocratie. Toutes ces expressions-là qu'ils considèrent, eux, comme une hérésie, comme quelque chose d'incompatible avec leurs convictions, il est nécessaire donc de les développer un par un et de démonter ce discours-là point par point. Donc c'est tout un travail pédagogique qui doit être fait avec la notion d'altérité, par exemple. Oui, le fait qu'ils acceptent que d'autres pensent différemment qu'eux et que eux, s'ils critiquent les autres religions, ils doivent accepter d'être critiqués. Ben ça, pour eux, non, ils n'acceptent pas ça. Ils sont dans cette intolérance. Puisqu'ils sont dans la vérité absolue, personne n'a le droit de les critiquer.
Francis Choa, il y a Hugo Micheron, chercheur, qui a fait un travail assez remarquable sur les djihadistes, mais aussi sur cette idée de radicalisation, qui dit, lui, que le phénomène s'accélère à partir du 11 septembre 2020, on imagine pourquoi, avec le démarrage d'une radicalisation, d'une... Attention, on s'étouffe en plateau, ça va ? Vous allez bien ? Bon, prenez votre temps, Avec le démarrage d'une radicalisation d'une frange de la jeunesse musulmane à partir donc de 2001 et qui a été crescendo depuis.
Malheureusement, confirmé par des enquêtes récentes qui montrent qu'une fraction non négligeable de la jeunesse en général ne se retrouve pas dans le « je suis Charlie » qui est symbolique de quelque chose, de la liberté, de ce qu'est la France et sans doute beaucoup plus parmi les jeunes qui... se retrouvent, se reconnaissent, s'identifient à la religion.
Mais comment vous expliquez que des jeunes qui sont de la deuxième, troisième génération soient séduits par ce type d'idéologie ? D'ailleurs, j'ai vu que le salafisme séduisait aussi beaucoup les convertis, ce qui est quand même un phénomène assez étonnant.
De manière inversement proportionnelle, d'ailleurs, sans doute plus, sans doute aussi par méconnaissance des soubassements de la culture musulmane et de la religion musulmane. Comment ça s'explique ? Par deux phénomènes. Très très rapidement, le premier, je vais dans le sens de ce que disait le professeur Rougier, c'est l'affaissement de la promesse républicaine. Et je ne parle pas seulement de ce qui relève de la lutte contre les inégalités sociales, le chômage, la précarité, les ghettos, certains ont dit l'apartheid social territorial et ethnique,
Valls,
je l'ai bien vécu, j'étais son adjoint, mais je pense surtout à l'affaissement de tous les réseaux d'éducation populaire, d'associations, de mouvements politiques. Aujourd'hui,
a laissé le terrain libre aux islamistes.
Aujourd'hui, il y a un nombre de villes incroyables où la plus grosse association de la ville, vous savez ce que c'est ? C'est la mairie. Et uniquement la mairie, sans plus aucun intermédiaire. Voilà. Donc, il y a la nature ayant horreur du vide, et le contexte social, le contexte politique et le contexte idéologique ayant beaucoup changé, pas seulement en France, mais dans le monde, notamment depuis les attentats de 2001, oui, il y a effectivement le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, et c'est un désastre, de plus en plus de jeunes ont une vision de la société, de leur propre avenir, totalement fractionnée, selon l'idée qu'ils se font de la religion, selon le sexe, selon l'ethnie, et selon maintenant le fait qu'il faudrait déboulonner l'histoire parce qu'elle est, coloniale. Il n'y a plus d'en commun. Et donc la question de la loi à venir...
L'individualisme a pris le pas sur le collectif. Mais ça,
la question de la loi à venir qu'il faut nommer pour la reconquête républicaine, soyons clairs, contre le communautarisme, c'est une loi qui doit reconquérir les esprits et les cœurs. Et ça sera long, très long.
On verra ce que peut annoncer le président Macron vendredi et ce qu'il faudrait qu'il annonce. Et puis on ira aussi par téléphone avec Raphaël Baquet qui a écrit un ouvrage assez remarqué sur ce qui s'est passé du côté de Trappes dans les Yvelines. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h39, c'est toujours le débat du Club des Idées. Ce soir, on parle du séparatisme à 48 heures du grand discours attendu par Emmanuel Macron dans les Yvelines. Au Mureau, où il devrait faire des annonces sur cette question du séparatisme. On en parle avec nos invités et on en parle également avec Raphaël Baquet. Bonsoir, vous êtes journaliste au Monde et vous avez coécrit avec Ariane Chemin, journaliste également au Monde, un ouvrage très remarqué sorti en 2018 qui s'appelle « La communauté ». Et qui se déroule à Trappes. Vous avez mené pendant un an une enquête à Trappes et vous vous posez cette question qui est fondamentale pour bien comprendre le sujet du séparatisme et du communautarisme. Comment ce territoire, d'où sont issus Omar Sy, Jamel, le champion Nicolas Anelka, le champion de foot, ou encore le rappeur Lafouine, est aussi l'un des plus importants pourvoyeurs de djihadistes partis, notamment pour l'Irak ou encore la Syrie. Et votre réponse, Raphaël Baquet ?
D'abord, on le voit bien, là à Trappes, il y a les deux formes de séparatisme. Le séparatisme le plus abouti et le plus dangereux, qui consiste à se retourner contre son pays d'accueil ou son pays de naissance, c'est le djihadisme. Alors à Trappes, effectivement, il y a eu quand même 72 départs au djihad, c'est un record européen, un triste record.
Oui.
C'est lié très clairement à une minorité agissante, qui est là depuis longtemps, bien avant 2001, à vrai dire. Il y a deux familles qui arrivent directement de la guerre civile algérienne, hein, deux familles qui étaient des militants du GIA, le groupe islamique armé, et donc évidemment qui vont créer un terreau et qui vont se combiner, si vous voulez, avec l'arrivée des prédicateurs. Donc ça, c'est vraiment ce qui va donner le djihad, et c'est à la fois évidemment l'aspect le plus tragique, mais d'une certaine façon, c'est celui sur lequel on peut le mieux lutter, si je puis dire.
Oui,
c'est-à-dire
oui.
que à Trappes, par exemple, on a envoyé après 2015, on a vraiment évidemment renforcé les pouvoirs de police, les pouvoirs des services de renseignement, le fisc aussi, car il faut bien voir que les islamistes radicaux, c'est aussi une prise de pouvoir. Parfois, un marché, hein.
Oui.
C'est un système où on peut gagner de l'argent. Donc le fisc, à vrai dire, autant que la police, ont été très partie prenante dans la lutte contre ces recruteurs pour le djihad.
Et sur l'autre volet, Raphaël Baquet,
et maintenant, il y a l'autre volet, le séparatisme, qui est le fait de s'abstraire de la communauté nationale. À Trappes, comme dans d'autres villes, on le voit bien, c'est le fait, par exemple, de ne pas envoyer les enfants à l'école, de faire l'école à la maison. C'est quelque chose de très important, à vrai dire. Hein. Faire l'école à la maison, c'est évidemment échapper pas mal au contrôle de l'éducation nationale. Et ça, c'est très difficile. C'est le fait de contester certains enseignements lorsqu'on va à l'école. L'enseignement de la musique, par exemple.
Oui.
Hein. Évidemment, la pratique du sport, c'est très important. Des choses qui paraissent, au fond, qui ne relèvent pas du savoir économique et académique et qu'on regarde moins, mais qui sont très importantes. Et
mais
puis, je voudrais
volonté,
insister
pardon,
quand même,
Raphaël
parce
Baquet,
que...
Dans ce que vous avez observé, il y a une volonté de prosélytisme, d'accaparement d'un territoire. C'est vraiment un islam politique, comme on l'entend beaucoup, qui est à l'œuvre
c'est
dans ces territoires.
C'est le fait de s'abstraire de la communauté nationale,
oui.
de surtout pas avoir le même enseignement.
Mais de capter les esprits
aussi. Je pense que
aussi.
C'est aussi une prise de pouvoir sur les femmes, quand même. Je voudrais insister là-dessus, parce que les femmes en sont souvent les premières victimes.
Mmh.
Et évidemment, le fait d'imposer certains rites, certaines façons de faire, c'est une prise de pouvoir sur
Alors,
les femmes.
On va faire réagir les invités en plateau. Bernard Rougier, d'abord.
Oui, je confirme tout à fait les observations de Raphaël Baquet. Le lien avec l'Algérie est fondamental pour comprendre la salafisation de l'islam en France. Au fond, le salafisme va bien au-delà des réseaux qui se réclament explicitement du salafisme. Et donc, on a précisément un lien avec l'altérité qui est construit idéologiquement. Le lien social devient à la fois affectif et idéologique. Et n'oublions pas, la fin de la décennie noire en Algérie s'est conclue par une armistice. Et en gros, les termes de l'armistice, c'était de dire vous ne vous battez plus, mais en échange, vous aurez une partie de l'espace religieux et de l'espace culturel en Algérie. Et ce pacte qui s'est noué à la fin des années 90 a rétroagi très très vite en France. Et donc on a eu comme ça une poussée très forte de la salafisation de la prédication par l'effet de la solidarité franco-algérienne, si j'ose dire. Ajouté à ça l'enjeu économique, le contrôle des agences de pèlerinage qui permet également de promouvoir un islam de type salafiste. Et donc c'est en effet l'islam comme marché, l'islam comme idéologie, qui a joué au bénéfice d'entrepreneurs de réseau très habiles qui ont agi sur les liens transnationaux au moment de la fin de la guerre froide.
Abdel Ali Mamoun, que doit annoncer le président de la République vendredi pour lutter contre ces séparatismes ?
Il doit encourager, prendre des mesures nécessaires à une nationalisation de l'islam de France pour que nous puissions avoir des référents religieux crédibles et légitimes.
Comment ? C'est pas ce qu'avait voulu faire le président Sarkozy avec le CFCM.
Non, attendez. Sarkozy, ce qu'il a mis en place, c'est une organisation du culte. C'est-à-dire
oui.
qu'il a mis en place des personnes qui organisent le culte, ou qui essayent du moins avec beaucoup de mal. Mais
sauf qu'à l'intérieur, je crois qu'il y avait 13 représentants des frères musulmans. Donc déjà,
mais pas que. Le reste,
le point de
c'est, quoi, les,
un...
c'est quoi les autres ? C'est des Marocains qui agissent au nom et sous les ordres des consuls ou des ambassadeurs. et du Maroc, de la Turquie, etc., etc. Qu'est-ce qui est français et qui est pour l'intérêt de la France dans ce conseil étranger du culte musulman? Parce que moi, je l'appelle conseil étranger, il n'a rien de français.
Ouais.
Il est où l'islam de France, l'islam français? Il n'y a pas donc dans ce discours-là.
Donc, premier élément, bâtir un islam de France,
ben oui, bien sûr,
avec
et le faire,
des imams français.
Et le faire avec des imams qui sont crédibles et qui sont légitimes, donc populaires, et à la fois reconnu par les institutions françaises.
Francis Choa, même question, que faudrait-il faire, que faudrait-il annoncer demain si vous étiez le président de la République pour lutter contre ce séparatisme, là, à court terme et moyen terme ?
De manière remarquable, sur la base d'une enquête remarquable, d'une ville que j'ai bien connue à Trappes, et ce que vient de dire monsieur l'imam islam de France à construire, c'est une bataille de long cours, parce que ça ne se fera pas sans les responsables de l'islam qui sont profondément divisés et dans le cadre de la séparation de l'Église et de l'État, mais il faut le faire.
D'accord.
Et c'est en cours d'ailleurs, il y a des structures départementales qui
mais en attendant
à
plus court terme, comment est-ce qu'on fait pour ramener dans le giron républicain ces jeunes qui sont égarés et qui sont séduits par un islam radical? Comment
alors
on fait
je
ça
vais vous prendre une mesure, une seule qui
nécessiterait
beaucoup de développement. C'est sur le terrain, rétablir de manière durable le couple maire-préfet pour que plus personne, parmi les agents publics, les services municipaux, les services départementaux, de conseils généraux, etc., etc., se trouve comme une poule devant un couteau lorsqu'on est confronté à des problèmes, ceux de Raphaël Baquet dans l'éducation, dans les associations, dans les clubs sportifs, dans les secteurs de la santé. La loi, elle devra préciser un certain nombre de choses.
Ça a toujours
choses.
Été le cas en France, hein. On se souvient des jeunes filles voilées de Creil en 1989. Oui. Le politique a toujours été, comme vous le dites, comme un lapin dans les phares d'une voiture, avec un temps de réaction qui souvent arrivait
alors,
à contre-temps.
Alors, tirons les leçons, il faut donc le courage d'une loi qui clarifie et qui redonne confiance dans celles et ceux qui sont dépositaires de la construction de la République.
En un mot, vous êtes d'accord, Bernard Rougier ?
Oui, je suis d'accord. Je crois qu'il faut vraiment réaffirmer la nature républicaine de notre système politique. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce salafisme joue sur le corps des femmes qu'il cherche à contrôler, le corps des jeunes gens qu'il cherche à entraîner dans les salles de sport, etc. Qu'il cherche à transformer par le vêtement, par des tas de méthodes. Mais la grande difficulté, ça va être d'introduire des solidarités, un tissu associatif non islamiste, non religieux, qui pourra contrebalancer précisément ces réseaux de prédication.
Alors, vous restez avec nous encore quelques secondes, car 19h48, juste après la pause, on parlera des archives d'Europe Soir, c'est la chronique Le Jour Où, et on s'intéressera à la première marche pour l'égalité contre le racisme en 1983. C'est peut-être aussi là qu'une certaine population s'est sentie pour la première fois abandonnée. A tout de suite.